Vous écoutez RFI, la radio du monde, il est 21h en temps universel. Et à Bassam, chez Alpha Blondy, 22h à Paris, où se trouve Alpha Blondy? Et le journal est présenté par Théo Renaudon. Bonsoir Théo.
Bonsoir Claudie. À la une de l'actualité internationale, on l'attendait, elle est là. Donald Trump déploie ses droits de douane aux États-Unis contre de nombreux pays étrangers. Jour de libération pour l'industrie américaine, assène le chef d'État. Entre autres, 34% pour la Chine, 24% pour le Japon, 20% pour l'Union Européenne que Donald Trump traite d'arnaqueur. On y revient dès le début de ce journal. Autre titre, Israël qui frappe la Syrie et qui poursuit ses opérations à Gaza. Le premier ministre israélien ordonne à son armée de fragmenter l'enclave palestinienne. Benjamin Netanyahou d'ailleurs, en Hongrie, ce mercredi soir, il vient pour une visite d'État de 3 jours, invité par le président hongrois Viktor Orban. Le tout alors qu'il est sous le coup d'État, le coup d'un mandat international, pardon. Depuis des décennies, notre pays a été pillé, saccagé, violé et dévasté par des nations proches et lointaines, des alliés comme des ennemis. C'est par ces mots que Donald Trump lance concrètement sa guerre économique. Le président américain annonce actuellement en direct à la télévision les nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis à ses partenaires commerciaux. Debout devant un tableau face à un public, feutre à la main, il a fait la liste des nouveaux droits de douane pour une grande partie du monde, entre autres 34% de taxes pour les produits chinois, 20% pour l'Union Européenne, 10% pour les Britanniques, 25% pour les produits japonais et coréens, 31% pour les Suisses, minimum 10% pour les pays les plus chanceux. La guerre commerciale est donc désormais réelle. Elle aura des conséquences pour toutes les économies de tous les pays du monde, mais elle aura aussi des conséquences climatiques qui pourraient même être dans un premier temps positives pour la planète. Florent Guignard.
Premier effet attendu de la guerre commerciale, une baisse de la croissance économique et moins de croissance, c'est moins de CO2, le principal responsable de la crise climatique. Deuxième effet, de probable relocalisation d'industries, ce qui fait du transport en moins, alors que le transport des marchandises dans le monde par bateau et par camion, c'est plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Mais tout n'est pas si simple, comme l'explique l'économiste Christophe Gouel.
La Chine est globalement un pays qui est assez polluant par dollar de production. Donc une relocalisation dans ce sens-là peut avoir un effet positif, mais ça garantit absolument pas qu'il y ait moins d'émissions. Si on relocalise des choses qui étaient produites en France, qui vont être produites aux États-Unis, globalement l'intensité carbone elle est plus élevée aux États-Unis. Même si on épargne en émissions liées au transport international, ce sera plus coûteux en émissions.
Les effets de la guerre commerciale sur le climat restent incertains, mais pour Christophe Gouel, il ne faut pas s'attendre à un miracle.
Je m'attends pas à ce que cette guerre commerciale amène à une baisse durable des émissions. C'est pas du tout son objectif. Les déréglementations environnementales, les autorisations de forage dans les zones protégées ou la sortie de l'accord de Paris, à long terme, plus que la guerre commerciale, c'est quand même plus ça qui va compter.
Donald Trump n'aime pas le climat et le climat n'a toujours aucune raison d'aimer Donald Trump.
Donald Trump d'ailleurs exhorte les dirigeants étrangers de supprimer leurs droits de douane et d'acheter des produits américains. Et le dollar, information de dernière minute, baisse déjà de 1%. Coup de frein aussi pour la marque de voitures électriques du milliardaire américain Elon Musk. Tesla voit ses ventes chuter encore plus que prévu, moins 13% sur un an. Le constructeur pâtit des prises de position de son propriétaire proche de Donald Trump. Certains actionnaires demandent carrément le départ d'Elon Musk du conseil d'administration de Tesla. Mais c'est plutôt l'inverse qui risque de se produire. La Maison Blanche indique que le milliardaire américain quittera ses fonctions lorsque sa mission au sein du département de l'efficacité gouvernementale sera terminée. Israël frappe en Syrie, bombardement sur un centre scientifique de recherche militaire syrien à Damas. Un raid a également touché les environs de la ville de Hama. Tel Aviv accuse le nouveau gouvernement syrien d'être terroriste, menaçant vis-à-vis d'Israël. L'armée israélienne frappe régulièrement des infrastructures militaires syriennes et a envahi plusieurs zones au sud-est du pays depuis la chute de Bachar el-Assad. Benjamin Netanyahou d'ailleurs arrive ce mercredi soir en Hongrie, invité de Viktor Orban pour une visite officielle de 3 jours. Pourtant, le premier ministre israélien est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des soupçons de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. Mais il a peu de chances d'être arrêté car Viktor Orban n'a pas l'intention de faire appliquer la décision de la Cour. À Budapest, Florence Labrouillère.
Dès que le mandat d'arrêt a été lancé contre Benjamin Netanyahou, Viktor Orban a invité son homologue en Hongrie, un pied de nez à la Cour pénale internationale, que la Hongrie a pourtant reconnu. En principe, les autorités hongroises sont censées arrêter toute personne sous le coup d'un mandat d'arrêt. Mais Viktor Orban a jugé que la décision de la Cour était inacceptable et que c'était une honte. À Budapest, Benjamin Netanyahou pourra donc dormir sur ses deux oreilles. Les deux politiciens nationalistes s'entendent bien. Leurs deux partis ont suivi la même trajectoire, autrefois libéraux, aujourd'hui d'extrême droite. Viktor Orban est actuellement isolé en Europe en raison de ses violations de l'état de droit et de son rapprochement avec la Russie. En recevant Netanyahou, il sort de son isolement et s'affirme sur la scène internationale. Quant au Premier ministre israélien, en venant en Hongrie, il montre qu'il a des appuis en Europe. Il compte s'assurer du soutien de Viktor Orban au plan de Donald Trump, un plan qui prévoit de transformer le territoire de Gaza en une sorte de Côte d'Azur vidée de ses habitants. Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Israël donc morcelle la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou a annoncé avant de partir ce mercredi soir d'avoir donné l'ordre à son armée de saisir des zones du territoire palestinien pour forcer le Hamas à rendre les derniers otages. Dans les airs, les avions israéliens ont poursuivi leur bombardement. Des civils, dont des enfants, ont été tués selon les secours. Il reste 58 otages à Gaza, dont 34 sont morts selon l'armée israélienne. Alors, quelle est la stratégie réelle d'Israël? Eh bien, encore et toujours chasser les Gazaouis de Gaza, selon Diad Majed, invité d'RFI Midi.
Il y a une volonté d'occupation militaire et puis suivie par une administration civile qui, selon le discours officiel, va tenter de faciliter le départ. Donc on reste dans l'idée d'un départ. Et faciliter le départ, évidemment, ne veut rien dire parce que les Palestiniens ont à maintes reprises annoncé qu'ils veulent rester chez eux. Imaginez que si c'était dans un autre cas où il y a une occupation qui viole le droit international et les résolutions onusiennes, dont le Premier ministre est sous mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité et qui continue sa guerre et qui, en plus des opérations guerrières, parle de départ des gens de leur terre, de leur maison, de leur histoire et de leur futur pour les mettre ailleurs. Tout cela, je pense que ça va avoir des conséquences très lourdes et dangereuses dans la région, mais aussi à travers le monde.
Ziad Majed, politologue libanais, invité d'Anne Kantner dans RFI Midi. C'est une première en France, une campagne de lutte contre le cancer à destination des jeunes lancée ce mercredi par l'Institut National du Cancer. Des vidéos diffusées sur Snapchat et sur TikTok qui reprennent les codes des réseaux sociaux. Faire prendre conscience aux 18-25 ans que 40% des cancers pourraient être évités grâce à un mode de vie sain, comme l'explique le professeur Claude Linacier de l'Institut National du Cancer.
Le problème du cancer est lié simplement au fait qu'on est exposé à des facteurs de risque tout au long de notre vie, notamment vis-à-vis de l'alcool, du tabac, de la sédentarité, de l'alimentation. Donc, fausse piste, c'est présenter des solutions miracles sur des sujets qui peuvent les intéresser, comme avoir une belle peau, par des gestes simples. C'est arrêter de fumer, c'est diminuer sa consommation d'alcool, avoir une activité physique régulière et une alimentation saine. Et tout ça, ça participe à une bonne santé et notamment à la diminution du risque de cancer, tout en ayant des bienfaits immédiats comme la belle peau ou les économies que je citais auparavant.
Propos recueillis par Sophie Volatier-Godard. Sale temps pour les ours de Slovaquie, pays d'Europe centrale. Le gouvernement ordonne d'abattre 350 spécimens suite à plusieurs attaques sur des hommes. Deux Slovaques auraient été tués par des ours ces dernières semaines. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où les gens ont peur d'aller dans les bois, a déclaré le chef du gouvernement. Décision dénoncée par les défenseurs de l'environnement. Moustiques, fièvre, maux de tête et courbatures, l'île française de la Réunion dans l'océan Indien est touchée par une épidémie de chikungunya depuis quelques mois. 6000 nouveaux cas ont été recensés cette semaine, plus 40%. Pour le moment, pas de mort officiellement due au virus, mais des examens sont en cours sur des décès suspects. Et puis le prix du chocolat va-t-il augmenter? En tout cas, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, augmente son prix d'achat aux planteurs de 22%, ce qui donne 2200 francs CFA le kilo de cacao, soit 3,35 €. C'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Vous retrouvez Christophe Paget pour 24 heures en France dans 50 minutes.